Si vous n'avez pas une bonne VO2 max, vous ne pouvez pas être un très bon sportif. Contrairement à ce que la majorité des gens croient, effectivement, on peut arriver à VO2 max en marchant à 15% de pente, là où ça commence à devenir avantageux, même en termes énergétiques, d'utiliser les bâtons. Vous pouvez faire toute la musculation du monde en isométrique ou en concentré, vous ne serez pas protégé contre les dommages musculaires.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est deux check-up complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description.
Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va parler trail, ultra trail. Est-ce que c'est possible justement d'être en bonne santé, de performer avec ce type de sport et dans cette discipline? On a la chance de recevoir Guillaume Millet. Donc, je vais te laisser tranquillement te présenter. Et pour nos auditeurs qui nous suivent, on va parler donc aujourd'hui des mécanismes de l'entraînement en trail. On va essayer justement de montrer comment est-ce qu'on peut performer tout en étant en bonne santé en trail, quels sont les risques justement qu'on peut retrouver en trail. Donc déjà, un grand merci Guillaume d'être présent. Je vous laisse tranquillement vous présenter.
Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis donc Guillaume Millet, je fais de la physiologie de l'exercice à l'Université de Saint-Étienne. Et je suis également responsable depuis peu d'un institut, notre plateforme technologique qui s'appelle l'IRMIS, l'Institut Régional de Médecine et d'Ingénierie du Sport. Et puis, je m'occupe également d'une chaire universitaire et d'une graduate school sur, toujours autour des thématiques, bien sûr, des sciences du mouvement, des sciences du sport et de l'activité physique.
Et là, en plus, vous avez un super projet. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler sur justement des gens plutôt sédentaires que vous allez essayer de mettre au sport et même à l'ultra-trail? Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors on n'a pas que ce projet. Des projets, on en a un petit peu tout autour du ventre, un petit peu trop peut-être. Mais en tout cas, on en a deux qui nous animent peut-être encore un peu plus que les autres. Le premier, c'est EvaLife, qui est un projet très, très santé. Peut-être que c'est un petit peu moins le but d'en parler aujourd'hui, mais c'est aussi un projet assez important pour nous. Et puis le deuxième projet, effectivement, qui, je l'espère, va démarrer bientôt. On attend l'autorisation du comité d'éthique, du CPP. Ça s'appelle 0-100. Effectivement, l'idée, c'est de prendre des gens complètement sédentaires, donc qui sont incapables de courir le moindre kilomètre, donc zéro, et de les emmener à 100 km en 18 mois, avec un suivi quand même très progressif malgré tout. C'est très court et très long à la fois, 18 mois. On a un peu de temps de faire les choses, de les amener à courir d'abord 1 heure, et puis ensuite, évidemment, progressivement, on augmente les distances pour aller, on l'espère, jusqu'à 100 km. Mais l'idée, c'est pas simplement le challenge de faire un coup médiatique en montrant que voilà, on peut prendre des sédentaires et leur faire un ultra. C'est surtout de suivre sur une durée assez rare en sciences du sport, de suivi longitudinal, et puis surtout en partant de complètement sédentaire et en allant jusqu'à des niveaux, on l'espère, de sportifs accomplis, on va pas dire extrêmes, en tout cas très accomplis, c'est-à-dire potentiellement capables de finir 100 km. Chez les hommes et chez les femmes, il y a assez peu d'autres exemples dans la littérature, je pense, qui ont fait ça. Donc voilà, on espère en tirer des belles images quand même malgré tout. On a envie que ça soit un sujet impactant et puis qu'on en parle. C'est une façon de parler de l'importance de lutter contre la sédentarité et l'inactivité. Voilà, et puis surtout, on espère qu'on va y arriver. Donc le but, c'est pas simplement de faire un coup médiatique, c'est de montrer avec au-delà des belles images et de l'impact médiatique, c'est de faire quand même une vraie belle étude scientifique de physiologie.
Bien sûr. Et on va justement montrer que n'importe qui peut réussir à faire un ultra trail en étant intelligent justement dans son entraînement, bien progressif et bien régulier. Je suis sûr que ça va marcher. Donc aujourd'hui pour nous.
Moi, ça fait des années que je le dis. Maintenant, il s'agit de le montrer. C'est bien beau de dire
Ouais.
des choses, mais quand on dit parfois des choses sans avoir tellement d'évidence, là, en l'occurrence, on n'a pas d'évidence. Quand je dis que depuis toujours, hein, moi, maintenant, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je parle de trail et d'ultra trail dans des livres, dans des articles, etc. Et j'ai toujours dit qu'effectivement, l'être humain était capable de faire un ultra et que c'est quelque chose de tout à fait banal. Alors, je parle d'ultra relativement classique malgré tout, c'est-à-dire je parle pas forcément de Tour des Géants, de Swiss Peak et de choses comme ça, qui là sont quand même demandent vraiment un niveau d'entraînement important, mais je parle d'ultra, y compris 100 miles, type UTMB. Et là, je pense qu'avec un entraînement, bien sûr qu'il faut se donner de la peine, qu'il faut s'entraîner, et forcément nos coureurs, on va, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils s'entraînent quand même quelques heures par semaine. Mais si on se donne la peine, on le fait comme tu l'as dit intelligemment. Oui, on espère. En tout cas, on va essayer de démontrer que la plupart des gens seront capables de le faire.
Et bonne hâte de voir ça. Juste si vous pouvez vous rapprocher à peine un petit peu du micro, ça serait super. Et on va donc parler aujourd'hui des mécanismes d'entraînement. Donc déjà, qu'est-ce qui détermine la performance, entre guillemets, le but c'est pas de faire 20 heures à l'UTMB, mais c'est quoi les justement qui déterminent cette performance, les différents facteurs? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Ah ben, si on parle de performance, on parle de 20 heures à l'UTMB, c'est ça, effectivement, quand on parle d'efforts très longs comme l'UTMB. Ça va dépendre un petit peu du format de course, justement. Alors là, on va parler de trail uniquement, mais bon, de toute façon, ça va être applicable à pas mal de sports d'endurance. Évidemment, d'autres sports, comme les sports collectifs ou le sprint, n'ont absolument rien à voir. Chaque sport a ses facteurs de performance, mais on va dire que les sports de durée prolongée, comme le ski de fond, le vélo, le trail, le marathon, etc., ont quand même des bases communes et après chacune a ses spécificités. Donc les bases communes, la numéro un, c'est la VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène. Ça, c'est sûr que si vous n'avez pas une bonne VO2 max, vous ne pouvez pas être un très bon sportif. Si vous voulez être un sportif élite, en tout cas dans des sports à durée raisonnable, pour de l'ultra, ça peut se discuter un tout petit peu plus, mais pour des sports à durée raisonnable jusqu'au marathon, il faut une très bonne VO2 max si vous voulez être un sportif élite dans ces disciplines. Le deuxième facteur, c'est la capacité à maintenir un pourcentage élevé de cette VO2 max sur la durée de votre épreuve. Donc c'est ce qu'on va appeler l'endurance. En réalité, l'endurance, ça a cette signification-là, ou l'endurance aérobie, ça a cette signification-là. Et voilà, donc la VO2 max, ça serait la puissance du moteur. L'endurance, c'est la capacité à maintenir un haut régime moteur sur la durée de l'épreuve. Et toujours pour rester dans l'analogie de l'automobile, le troisième facteur clé, c'est le coût énergétique, qui est donc pour une voiture, ce serait la dépense, la consommation d'essence aux 100 km. Donc on veut avoir également, pas parce qu'on est capable d'avoir beaucoup d'énergie, une grosse VO2 max, une grosse endurance, il faut gaspiller cette énergie. Donc en même temps, il faut essayer d'être économe de son énergie et d'avoir une bonne technique de course, les bons matériels, le bon relâchement, etc., pour être le plus économique possible et pouvoir durer effectivement le plus longtemps possible. Voilà, ça c'est donc ces trois facteurs-là qui sont connus depuis maintenant pas mal de décennies. Alors parfois on remplace endurance par seuil anaérobie, dans le modèle de Joyner par exemple. Mais moi je crois qu'endurance c'est plus intégratif, donc je préfère utiliser le F comme fraction de VO2 max, donc l'endurance. Et donc ça c'est pour des sports un peu classiques. Pour l'ultra, je dirais que le coût énergétique prend un petit peu moins d'importance, mais même si ça reste important évidemment. Et on va plutôt switcher progressivement sur la capacité à économiser ses muscles, les muscles de ses jambes, essayer de limiter les dommages musculaires. Et puis il va falloir également renforcer cet aspect-là, qui est une des composantes de l'endurance, c'est-à-dire être capable de courir et notamment d'accumuler des descentes, des dénivelés négatifs, etc., sans induire immédiatement de gros dommages musculaires. À la fin, tout le monde a mal aux jambes, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est bien quand ça arrive le plus tard possible. Donc ça va demander un travail spécifique qui est pour le coup assez particulier à l'ultra-trail.
On en parlera après. Et après, à quel niveau vous mettez justement la tactique de course, le fait de pas partir trop rapidement peut-être, de savoir bien gérer et la capacité aussi à s'alimenter, ça vient vraiment en second plan?
Pour moi, on peut le rentrer dans l'endurance. En tout cas, la capacité à s'alimenter, c'est l'endurance. Si on s'alimente mal, bien sûr, on a beau avoir la plus grosse VO2 max du monde et le meilleur coût énergétique du monde, si on s'alimente pas, forcément, on va tenir un pourcentage dérisoire. Et si on est en panne de carburant, on va tenir un pourcentage dérisoire de sa VO2 max. Donc, ça sera l'endurance qui va en prendre un coup derrière les oreilles. Donc, ça fait partie intégrante de l'endurance, comme la résistance aux dommages musculaires, quand même un petit peu, même sur le court, mais encore plus sur le long, comme je viens de le dire, comme la capacité à résister à la chaleur. Etc., comme les valeurs du seuil anaérobie. Donc tout ça, l'endurance, elle est protéiforme. Elle a plusieurs, de la même façon que la VO2 max, elle dépend de plusieurs facteurs. L'endurance dépend de plusieurs facteurs. Le coût énergétique dépend de plusieurs facteurs. C'est pour ça que la performance, elle est si multifactorielle. Donc voilà, l'endurance, elle dépend, enfin la nutrition dépend de, enfin est un des facteurs de l'endurance. Le pacing, effectivement, ça pourrait être quelque chose que l'on pourrait mettre à part, mais encore que si on part trop vite, forcément sur la vitesse moyenne qu'on est capable de soutenir, on va aussi limiter cette vitesse, même si on a la meilleure VO2 max du monde, et donc l'endurance sera plus faible. Mais bon, je veux bien admettre que le pacing peut être quelque chose mis en particulier. Le mental, on aurait pu citer aussi, vous auriez pu citer le mental. Ça, pour moi, ça vient aussi de l'endurance. C'est-à-dire, l'endurance, c'est pas seulement physique, elle est aussi mentale, être capable de se faire mal et de, ouais, si dès qu'on a un petit peu mal aux jambes, on ralentit, c'est sûr que l'endurance, là encore, elle va en prendre un coup. Donc, on peut presque danser. Alors après, peu importe la façon dont on présente tous ces facteurs, mais évidemment, tous ces facteurs jouent un rôle. Est-ce qu'on arrive à les faire rentrer un peu au chausse-pied dans ces trois facteurs clés? Alors, la VO2 max, c'est quand même très spécifique. Mais le coût énergétique, par exemple, comme je l'ai dit, ça peut recouvrir des choses aussi diverses que est-ce qu'on a le bon matériel, est-ce qu'on a la bonne technique de course, est-ce qu'on est bien relâché, etc. Le mental peut aussi jouer sur le coût énergétique, justement, est-ce qu'on est relâché, ça peut être une question aussi de mental. Et puis l'endurance, c'est encore pire, hein. Effectivement, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans l'endurance. Alors après, qu'on décide de les mettre là-dedans ou qu'on dit l'endurance, c'est le seuil, et puis tout le reste, c'est le mental, c'est à part, le pacing, c'est à part, la nutrition, c'est à part. Peu importe, chacun présente les choses comme il veut, mais dans tous les cas, bien sûr, tous ces paramètres-là jouent un rôle dans la performance.
Super, bien, on va rentrer un petit peu dans le détail. On va peut-être commencer par la VO2 max. C'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à devoir la travailler quand on fait surtout de l'ultra. C'est vrai que sur du trail court, ça peut avoir du sens, mais c'est pas la première chose qui peut-être nous vient à l'esprit. Comment justement travailler cette VO2? On sait qu'il y a une grosse partie génétique. On sait qu'on peut la travailler, qu'après on arrive à un plateau. Comment ça se passe de façon très rapide et en vulgarisant? Pour arriver à son plateau, combien de temps de travail à peu près, combien de séances, si on pouvait faire des généralités, même si je sais que tout est contextuel, comment est-ce qu'on pourrait donner à peu près une image pour nos auditeurs?
Alors la VO2 max joue quand même un rôle moins important sur les ultras que sur le court. Plus ça va être long et moins la VO2 max va jouer un rôle important. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les femmes se rapprochent un peu des hommes quand les distances augmentent. Parce que finalement, comme elles ont une moins bonne VO2 max et que ça prend de moins en moins de place dans la performance, ça peut être une des raisons, même si ce n'est pas la seule. Mais ça reste important malgré tout. Si on veut être un coureur élite en ultra, on ne peut pas se permettre d'avoir une mauvaise VO2 max. On peut éventuellement se permettre d'avoir une VO2 max correcte, bonne, mais sans être excellente. Si on n'a pas d'ailleurs, comme vous l'avez dit, génétiquement, les gènes jouent énormément dans la VO2 max. Donc si on n'a pas eu la chance au tirage au sort d'avoir une bonne VO2 max, alors c'est une bonne idée d'essayer de se mettre sur l'ultra parce que on va pouvoir travailler les autres composantes qui, elles, seront un petit peu plus dépendantes de l'entraînement. Et comme la VO2 max joue un rôle plus faible dans la performance, eh bien voilà, si on n'a pas eu de chance, moi, je conseille aux gens d'aller sur l'ultra quand ils ont une VO2 max qui n'est pas exceptionnelle. Pour répondre à la question, la VO2 max, comment on la travaille? Bon, avec des méthodes qui sont connues. Bon, il y a plein de méthodes, en fait. Ça dépend si on s'adresse à des gens qui sont très entraînés, pas entraînés. En gros, pour des gens qui sont peu entraînés, voire pas entraînés, bah, tout ce qui va être effort intermittent, court, répété, peut fonctionner. Quand on a affaire à des gens un petit peu plus entraînés, il faut que les durées quand même d'efforts, dans tous les cas, il faut que ce soit des efforts proches du max. Et ça peut être, quand on est très entraîné, il vaut mieux avoir quand même des temps d'efforts qui sont un petit peu plus longs. Donc après, chacun a ses méthodes. Ça peut être des méthodes d'intervalle training classiques, ça peut être du fartlek, ça peut être quand même des sprints répétés pour ceux qui veulent. Ça peut être évidemment du travail en altitude. Si on veut améliorer la VO2 max, quand on arrive à ce plateau, ben, un des moyens d'améliorer la VO2 max, ben, c'est d'aller travailler en altitude. Voilà, donc il y a pas mal de méthodes, mais dans tous les cas, c'est no pain, no gain un petit peu quand même. On peut pas améliorer la VO2 max si on travaille à faible intensité, à
Et
part peut-être à niveau.
combien de temps à peu près pour arriver sur ce plateau? Ça dépend vraiment du type de personne. Et après, est-ce que juste un petit rappel dans la semaine, voire toutes les 2 semaines, une séance, ça peut suffire pour
Combien de temps
maintenir ce plateau?
quelqu'un qui aurait jamais fait bon, déjà des gens qui se mettent au trail comme ça, qui n'ont jamais couru, bah, nous on va les avoir dans le 0 tout 100, donc on verra. Mais quand même dans l'ensemble, quand on passe au trail, c'est qu'on a fait un autre sport. Et même si l'autre sport, ça a été du foot, par exemple, quand on fait du foot, on développe sa VO2 max. Courir derrière un ballon, on est quand même obligé de courir à des intensités élevées, etc. Donc mine de rien, on développe sa VO2 max, ce qui fait que quand on arrive, quand si on passe au trail après sa carrière de footballeur, par exemple, bah, ça veut dire Max, elle est pas encore forcément au plateau parce qu'on a des séances, on n'a peut-être pas fait de séances qui étaient vraiment spécifiques à VO2 Max pour développer VO2 Max, mais on n'est pas si loin que ça. Donc, en quelques mois ou très courtes années, on va arriver à son plateau. C'est quelque chose qui est quand même assez rapide. Donc après, évidemment, on peut encore progresser en jouant sur les autres paramètres de la performance. Mais de la VO2 max, elle plafonne quand même assez vite. Et après, l'enjeu, c'est pas tellement de la développer, c'est d'éviter qu'elle baisse. Et notamment quand on fait des efforts trop longs, trop souvent, quand on est un sportif d'endurance et encore pire d'ultra-endurance, et si on prend pas la peine de faire des efforts intenses régulièrement, donc d'aller sur piste ou de pas forcément sur piste, mais en tout cas de faire des efforts, du fractionné, des intervalles training, alors il y a des chances, mais je n'ai même pas d'études qui le démontrent, mais la logique voudrait que effectivement la VO2 max risque de baisser un peu. Donc l'idée, c'est de faire globalement, l'idée, c'est de dire on va faire en début de saison un petit bloc de VO2 max, et puis après effectivement on va rappeler ça une fois tous les 10 jours par exemple, en faisant une petite séance ou une partie de la séance en tout cas, où on va essayer de se mettre un petit peu carpette.
Et on sait que VO2 max, ça dépend aussi du sport, bien entendu, sur lequel on pratique. Donc, est-ce que VO2 max sur une piste où on va être à bloc, ça a du sens? Ou est-ce que ça n'a pas plus de sens de se mettre sur une côte et essayer de vraiment marcher rapidement? Quelque chose qui correspondrait plus peut-être à l'ultra trail où on va beaucoup marcher. Est-ce que c'est transférable, cette VO2? Est-ce que ça dépend du sport, de l'effort qu'on va faire? Comment s'y retrouver?
Oui, c'est transférable en partie. Après, évidemment, il y a une composante de l'entraînement qui est clé, qui s'appelle la spécificité de l'entraînement. Donc, c'est sûr que si vous faites du trail et encore plus de l'ultra trail où vous allez utiliser les bâtons, il est de bon ton de développer sa VO2 max avec les bâtons. Parce qu'on a quand même besoin à un moment donné, même si la VO2 max, quand on est entraîné, elle dépend fortement des aspects centraux. Donc ça, c'est transférable, évidemment, le débit cardiaque, la masse d'hémoglobine, etc. C'est transférable quel que soit le sport. Par contre, typiquement, si on n'a jamais utilisé les bâtons, le jour où on va prendre les bâtons sur sa course, eh bien les muscles des bras ne seront pas outillés pour utiliser l'oxygène. C'est-à-dire qu'il y aura pas assez de mitochondries, de capillaires sanguins, etc. Donc c'est une raison pour laquelle ça va quand même jouer un rôle, mine de rien. Donc, il faut absolument quand même le travailler pour pouvoir travailler les adaptations locales également, et pas seulement centrales. Même si, je répète, ce sont les adaptations centrales qui sont déterminantes dans VO2 max, en tout cas pour des gens qui sont entraînés. Mais donc, bien sûr qu'il faut travailler. Et contrairement à ce que la majorité des gens croient, effectivement, on peut arriver à VO2 max ou proche de VO2 max en marchant, à condition de marcher très rapidement avec des bâtons dans des pentes raides.
Et justement, si on fait un cycle VO2 max, quel type de renforcement on pourrait faire si on a un programme de renfort qui serait lié? Est-ce qu'on s'en soucie pas? Est-ce qu'il peut y avoir des interférences entre les deux?
Alors, ça, c'est une vraie bonne question. Je suis pas sûr que quelqu'un ait réellement la réponse. Alors, je m'étais intéressé un tout petit peu à ça alors, d'une façon plus globale, à l'interférence entre l'aérobie et la musculation, un temps. Donc, j'avais fait un petit peu la littérature. Il y a de la littérature assez intéressante. Alors, comme souvent, pas toujours chez des athlètes élites, hein, même le plus souvent, pas chez des athlètes élites. Donc, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes dans le sens où, les résultats que l'on montre chez les athlètes, non élites, dans quelle mesure ils sont applicables aux élites, ça c'est une question qui dépasse largement ce point particulier. Quoi qu'il en soit, je me souviens d'un papier où ils avaient montré justement que quand on faisait de la musculation, quand on faisait du travail à VO2 max de haute intensité, alors il y avait une zone d'interférence sur la musculation plutôt de type d'ICRM, c'est-à-dire des charges lourdes, mais quand même avec un assez grand nombre de répétitions. Et donc l'idée, c'était de dire, bah, si vous êtes dans un programme, vous allez faire ce type de renfort musculaire, alors il vaut mieux éviter de faire du travail à haute intensité. Donc c'est un papier, du coup j'ai recherché parce que je me rappelle plus des références. Donc ça s'appelle, la ref, c'est Docherty et Sporer de 2000. Maintenant, ce modèle entre guillemets d'interférence, il est assez théorique, où ils considèrent que les adaptations sont plus périphériques à haute intensité, ce qui reste encore à prouver. Mais voilà, bon, cette question, elle me fait penser un peu à ce papier-là. Bon, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, si on travaille à VO2 max, on peut effectivement faire du renfo, mais peut-être plutôt sur des charges un peu plus lourdes, où on va travailler plutôt sur les adaptations nerveuses, d'après ces auteurs. Maintenant, maintenant, est-ce que c'est si
Pas
pertinent
de
pas,
consensus.
ouais, je suis pas absolument convaincu, mais en tout cas dans cette discussion-là, ouais, il y avait ce papier-là qui me venait en tête quand on a parlé de ça, quand vous avez posé cette question. Mais la vérité, c'est que la science est assez pauvre, assez limité pour répondre à ce genre de questions, et que là, c'est aux entraîneurs de l'expérience de l'entraîneur qui va faire la différence pour des questions aussi appliquées que celle-là.
Ça marche. Merci pour ces précisions. Après, on va venir justement sur l'endurance. On va vraiment faire un gros focus dessus. Mais avant de passer à l'endurance, on va parler un petit peu de pacing, de tactique de course. Parce que c'est vrai qu'on peut facilement se mettre une belle épine dans le pied. Donc, comment faire justement, c'est la question qu'on peut se poser pour partir à la bonne vitesse. Comment on sait ça? Et quel impact aussi ça peut avoir de partir trop vite et derrière exploser? Comment on se situe? Quel discours vous avez par rapport à ça?
Pour quel type d'épreuve? Je pense que c'est
Ah,
très
mais
pratique.
sur le bah sur l'ultra, on peut parler des deux, je pense, sur le trail et l'ultra trail, si on a le temps, il y a pas de souci, on peut bosser.
Ouais. Alors en ultra, c'est, je pense, effectivement peut-être encore plus important qu'ailleurs, parce qu'il y a cette notion justement des dommages musculaires dont on a parlé. Donc le pacing, il va aussi dépendre un petit peu du profil sur lequel on va courir. C'est-à-dire quelqu'un qui partirait effectivement trop vite. Il risquerait de le payer s'il part trop vite sur le plat et en montée, mais de mon point de vue, il risquerait de le payer encore plus s'il part trop vite dans les descentes. C'est-à-dire s'il attaque fort sur les premières descentes parce qu'il a des bonnes jambes, je pense qu'il y a des chances que ça se passe assez mal dans la deuxième moitié de la course. Parce que les dommages musculaires sont plus dépendants de l'intensité de la contraction excentrique que du nombre de contractions excentriques. On sait que ce qui cause vraiment des dommages, c'est les contractions excentriques de haute intensité. Donc quelqu'un qui saurait pas se freiner sur les premières descentes, irait au devant de problèmes sûrement sur la deuxième partie de la course, de déconvenues sur la deuxième partie de la course. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut aussi faire n'importe quoi dans les montées. Il y a un adage que je cite d'ailleurs dans mon livre là sur l'ultra trail, qui est l'adage de l'ultramarathonien, qui est si tu ne vois pas le haut de la côte, marche. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les premières côtes, et je me rappelle à l'époque où je faisais l'UTMB, en allant aux Ouches, là, il y a des petites côtes qui sont pas très longues, mais effectivement, on voit pas forcément toujours le sommet. Et donc, on voit beaucoup de gens qui passent la côte à bloc et en ventilant comme des bœufs, là, alors que, ouais, il faut accepter de marcher, de se faire doubler, tant pis sur les premières montées, même chose sur les premiers cols, etc. Il faut vraiment accepter de partir vraiment tranquille, tranquille. Maintenant, il y a aussi des exemples contraires de personnes qui sont parties, de coureurs qui sont partis un peu vite et notamment qui se sont retrouvés en tête de course. Et du coup, c'est le mental qui a fait que bah, peut-être ils ont fait une performance meilleure qu'ils n'auraient fait si jamais ils avaient eu un pacing un petit peu plus sage. Donc, on a aussi des contre-exemples, mais globalement, quand même, un pacing un petit peu plus conservateur, je pense, c'est malgré tout ce qu'il faut conserver, tout ce qu'il faut adopter, en sachant que de toute façon, tout le monde diminue, la vitesse de tous les coureurs diminue en ultra, encore plus en descente, notamment pour les derniers, que pour les premiers. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de se limiter sur les premières descentes, et si possible, d'ailleurs, utiliser les bâtons, y compris en descente, encore une fois, toujours dans le but. Quand je disais que le facteur principal, c'était pas tant le coût énergétique que le coût les sauver les muscles quelque part, c'est pas sauver Willy, c'est sauver les muscles. Utiliser les bâtons pour se freiner dans les premières descentes, ça peut être tout ce qu'on va mettre sur les bras, c'est vrai en montée bien sûr, mais c'est aussi vrai en descente, et eh bien c'est toujours ça de moins que l'on va mettre sur les jambes, et au final ça peut payer sur la fin.
On va en
Parler de
parler
moi,
justement.
tout ce
On
que
va
je
en
dis là,
parler.
c'est pas forcément pour les élites. Les élites, on imagine mal sur les premières descentes, encore que ça pourrait se discuter, mais en tout cas, pour les non-élites, ça s'applique à quand même beaucoup de monde. Les
Bien
non-élites,
sûr.
c'est 95% des gens, voire 80%.
Oui, c'est sûr. Mais on va en parler après justement. On fera un gros focus sur la descente et sur l'endurance musculaire, comment la travailler. Et on parle de pourcentage de pente aussi. À partir de combien de pourcentage ça serait bénéfique de. Bon, il y a cette phrase que tu as dit, si on voit pas le bout, on marche, mais si par exemple on a la chance d'avoir une montre qui nous met le pourcentage, à partir de combien de temps c'est plus intéressant de marcher plutôt que de courir? Est-ce qu'on a une limite en termes de pourcentage?
Ouais, alors j'ai plus la valeur en tête, mais en tout cas, à partir de 15%, Moi, je considère que la vraie côte, ça commence au-delà de 10 et 15%. Là, on commence à parler de côte. On vient de soumettre un papier là ce matin, là, qui était en révision là, dans Sports Medicine, avec un grand nombre de collègues, dont des Américains. On a essayé de comparer justement le coût énergétique. Ça répond pas directement à la question, mais un petit peu quand même. On a comparé le coût énergétique en montée et à plat, ou en montée ou en descente et à plat, pour regarder un petit peu s'il y avait des corrélations entre le coût énergétique de différents coureurs qui courent justement à plat et en montée ou à plat et en descente. Et on a pu montrer que finalement la corrélation, elle était très bonne jusqu'à moins 10% de pente et plus 10% de pente. C'est-à-dire que là, on considère que c'est encore de la course normale. Et ensuite, on voit que la corrélation, elle est beaucoup moins bonne, comme si le pattern de course devenait très spécifique à partir de ces pentes-là. Et bon, en tout cas, voilà, à partir de 15%, et c'est aussi à 15% de pente, là où ça commence à devenir avantageux, même en termes énergétiques, d'utiliser les bâtons. Avant, c'est sur des pentes plus légères, ça peut être plus coûteux, même si maintenant les bâtons sont très légers, etc. Mais ça peut être un tout petit peu plus coûteux d'utiliser les bâtons, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser sur des pentes plus raides. Moi, je pense que dès que ça monte un tout petit peu, voire, mais ça, il y a peu de gens qui pensent comme moi, voire sur le plat, parfois, ça peut être en ultra. Ça peut être intelligent d'utiliser les bâtons, en tout cas intéressant, à défaut d'être intelligent, mais moi je dirais même intelligent, parce que même si ça coûte un petit peu plus d'énergie, bah le fait de soulager les jambes, en tout cas dès que ça monte un petit peu, je pense qu'il faut sortir les bâtons en ultra et les utiliser. Même si, encore une fois, même si c'est pas forcément sur le plan énergétique que l'on va bénéficier de ça, mais en tout cas on va en bénéficier sur le plan musculaire, et au final c'est quand même ça la clé.
Plutôt, est-ce qu'il y a une technique meilleure qu'une autre? Il y a l'alterné ou il y a les deux à la fois? Vraiment, souvent on conseille quand c'est très raide de mettre les deux à la fois et de pousser, ou quand c'est un peu plus rapide au roulant d'alterner droite-gauche. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou ça dépend vraiment de chacun?
Je suis d'accord avec ça. Effectivement, quand ça va être très raide, on va venir se pendre sur les bâtons et se tracter. Et quand c'est moins raide, effectivement, on peut, puisque du coup l'effort est plus léger, hein, il y a moins de résistance due et moins de pesanteur due à la pente plus faible. Et donc on va pouvoir effectivement travailler musculairement plus facilement au niveau des bras. Et même quand c'est plat montant, voire je l'ai dit moi sur le plat, on peut même aller pousser loin derrière et faire une poussée, deux, trois foulées, une poussée, deux, trois foulées. Et donc, presque une fois tous les quatre pas, on a un cycle complet de bras, quoi. Donc, bon, après, il y a très peu de coureurs qui font ça. Hein, donc, peut-être c'est une idée un petit peu loufoque, mais moi, j'aime bien faire ça. Mais bon, je suis un coureur élite, donc c'est peut-être pas un très bon exemple. Mais en tout cas, oui, alterner en montée, puis ensuite, quand c'est plus raide, pousser, ce qu'on appelle pousser simultané en ski de fond, ça reste vrai à ma connaissance.
Ça marche. Mais là, on va partir maintenant sur l'endurance musculaire. On a compris que c'était essentiel d'essayer de préserver son capital musculaire tout au long de la course. Première question assez simple, avant de parler vraiment de la course, comment est-ce qu'on l'entraîne? Parce que c'est vrai que c'est une question aussi. J'imagine qu'on essaye d'amener dans son entraînement des séances qui vont ressembler à ce qu'on va avoir le jour de la compétition. Ça serait quoi un petit peu? Parce que c'est vrai que souvent les trailers, on a cette idée de faire du volume, on court tous les jours parce qu'on dit ben, il faut faire du volume. Mais est-ce que parfois ça peut pas avoir plus de sens d'essayer de... Parce qu'en plus vous êtes le créateur pardon du Weekend Shock, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est quand même bon, bravo déjà à vous pour ce concept. Et justement, c'est peut-être le moment aussi de l'évoquer parce qu'on parle souvent de courir un petit peu tous les jours des petits volumes, mais est-ce que pour être le plus spécifique par rapport à la compétition et avoir cette endurance musculaire justement, ils vont pas mieux essayer de cibler deux, trois sorties avec un gros volume si notre corps est bien sûr capable de l'encaisser.
Oui, bah c'est le principe des week-end shocks, hein, tout simplement. Effectivement,
C'est
donc
ça.
je ne peux être que d'accord avec ça. Ceci étant dit, je pense que tout ce qu'on court est bon à prendre, à condition de ne pas se blesser. Et donc, malheureusement, j'ai envie de dire, effectivement, quand on fait beaucoup de volume, ça peut payer. Je dis malheureusement parce qu'on peut justement aussi basculer du côté obscur de la force et du coup, soit se blesser, soit être dans une pratique qui est pas très vous avez parlé de santé au début de l'interview, donc c'est sûr que c'est voilà, quand on fait des gros gros volumes d'entraînement semaine après semaine, année après année, peut-être qu'on est dans cette zone où effectivement en faire un petit peu mieux serait bon pour la santé. Je pense que ça concerne très peu de monde, mais effectivement il y a quand même une partie des coureurs qui doivent être dans cette zone-là. Mais allez, si c'est 5% des gens, c'est le bout du monde. En tout cas, avant de répondre à la question de façon un peu plus précise sur cette endurance musculaire, cette capacité à minimiser les dommages musculaires, il faut revenir à un concept qui est important, qui s'appelle l'effet protecteur. Ou en anglais, on dit repeated bout effect. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est répéter les bouts, c'est-à-dire les séries ou les séances pour protéger ses muscles. Et là, ça fait référence surtout à les protéger contre les dommages musculaires. Les dommages musculaires, c'est essentiellement en excentrique qu'ils surviennent. Et ce qui a été montré dans la littérature, alors je parle pas encore de course à pied, hein, je parle vraiment de l'excentrique type en salle, etc., c'est que l'entraînement concentrique et même isométrique ne protège pas contre les dommages induits par l'excentrique. Donc vous pouvez faire toute la musculation, en tout cas vraiment à la marge, vous pouvez faire toute la musculation du monde en isométrique ou en concentrique, vous ne serez pas protégé, quand le jour où vous allez faire de l'excentrique, vous ne serez pas protégé contre les dommages musculaires induits par l'excentrique. Donc ça, c'est une première chose, qui veut dire qu'en course à pied, c'est la même chose. Si on fait pas d'excentrique et de descente, c'est sûr que le jour où on a à se coltiner des grandes descentes, il y a des chances que ça se passe mal. La course à pied, quand même, faut jamais oublier que c'est une succession d'excentriques et de concentriques. Chaque foulée, on a une petite phase excentrique. Donc le simple fait de courir, il y a quand même cette petite phase excentrique qui fait que ça va quand même nous protéger. Mais pas suffisamment, et notamment en ultra, effectivement, on peut se dire, on va courir beaucoup, c'est-à-dire souvent, accumuler les kilomètres, on peut se dire, on va essayer de travailler la musculation excentrique en salle, tout ça, ça sert, mais c'est pas très spécifique, hein, ce concept de spécificité de l'entraînement. À un moment donné, si on va pas en montagne pour accumuler du dénivelé d'une traite, c'est-à-dire on va se taper des 1000 mètres, 1500 mètres, peut-être 2000 mètres de dénivelé négatif d'un coup sur les très très grandes descentes, eh bien le jour où on a à faire ça en course, il y a des chances que ça se passe quand même assez mal. Donc la spécificité de l'ultra, c'est pas seulement par rapport au dénivelé négatif, mais ça en fait partie, et c'est sûr que le concept de Weekend Shock, c'était un petit peu la base quand même, c'était de justement regrouper ces heures pour aller faire des grandes descentes, aller en montagne sur des terrains qui ressemblent, parce que la plupart des ultras ont lieu en montagne, pas tous, mais la plupart quand même malgré tout, donc aller en montagne pour aller justement faire des grands dénivelés négatifs. Mais la spécificité, c'est aussi, par exemple, marcher. Marcher avec des bâtons, on en a déjà un petit peu parlé. Si on fait pas de Weekend Shock, on va être plus ou moins obligé, et en tout cas il faut se forcer à marcher avec les bâtons, eh bien le jour, si on n'a pas fait ça, le jour où on doit faire un ultra, et même les premiers ne courent pas tout le long, loin s'en faut, donc c'est sûr que les non-élites, ça va être bien pire, bah, le jour où on va devoir marcher, eh bien notamment au niveau des mollets, et puis peut-être d'autres muscles musculaires, d'autres groupes musculaires, mais en tout cas les mollets, vont être dans des positions qui sont pas celles qu'ils auront travaillé à l'entraînement, donc ça peut pas fonctionner. Donc les week-end shocks servent aussi à ça, à travailler sur le mode de locomotion, marche versus course, excentrique, je l'ai dit, sur les vitesses de contraction. On sait que même les vitesses de déplacement, on sait qu'il y a un concept aussi qui, même s'il n'y a pas une littérature extrêmement fournie là-dessus, mais s'entraîner à une certaine vitesse, il y a des chances qu'on améliore plus son coût énergétique à cette vitesse-là. Si on fait que de la course à allure élevée, eh bien le jour où on a à courir doucement, et en ultra on a à courir doucement, voire à marcher, mais même sur la course, eh bien on n'aura pas optimisé son geste à allure lente. Donc tout ça fait sens, et tout ça, eh bien la base des week-end shocks, la base théorique des week-end shocks, en plus du reste, hein, qui est de s'entraîner avec l'alimentation, son matériel, prépa mental, etc. Donc il y a quand même beaucoup de raisons de faire des week-end shocks.
Bien sûr. Et donc le week-end shock, ce que vous recommandez, c'est le premier jour d'être plutôt tranquille, même sur les descentes, de ne pas en faire trop, et de garder du jus plutôt sur le lendemain, et d'envoyer plutôt le lendemain si on a encore un petit peu d'énergie. C'est ça là, à peu près, le pour mettre un contexte assez simple et clair pour les auditeurs.
C'est ça, c'est l'idée, c'est pas de se mettre carpette le premier jour. Alors on peut éventuellement monter d'un bon rythme, en tout cas les descentes quand même être un tout petit peu prudent pour pas, bah, pas se blesser, et puis pas repartir le lendemain avec déjà des grosses courbatures, ce qui nous ferait faire une séance qui serait pas optimale. C'est-à-dire si on part déjà sur de grosses courbatures, bah, on est alors on peut se dire que c'est une façon de travailler le mental pour l'ultra. Bon, je pense qu'il vaut mieux quand même garder ça pour la fin de journée où de toute façon ça sera dur dans tous les cas, voire faire un troisième jour. Hein, on a le droit aussi de faire des week-end chocs de 3 jours, hein, c'est pas interdit. Mais voilà, donc c'est pour ça effectivement que je conseille habituellement de pas attaquer plein pot sur les premières descentes le premier jour. Sur la fin du deuxième jour, si ça se passe bien effectivement et qu'on a encore un peu de, on n'a pas trop mal aux jambes, alors on peut se lâcher un petit peu sans dire de faire la dernière descente à fond, hein, parce qu'il faut quand même se méfier hein, quand on est sur des états de fatigue un peu prononcés comme ça après 2 jours en montagne. Attention, non pas aussi de pas se blesser, mais en tout cas peut-être se lâcher un petit peu plus et sans oublier évidemment derrière de prendre de la récupération.
Bonjour à tous, c'est Pams. Je me permets d'interrompre juste 30 secondes le podcast pour vous présenter mon nouveau livre qui est disponible, Deviens ton coach running, dans lequel j'explique tout sur les mécanismes d'entraînement, la nutrition, la récupération, le renforcement. Il y a même un bilan articulaire où vous allez pouvoir tester et connaître l'état de vos différentes articulations. Je vous mettrai le lien du livre en description et vous avez aussi un coaching offert avec l'achat de ce livre. Il suffit de m'envoyer la preuve d'achat en message sur Instagram et on fait un bilan ensemble 100% personnalisé et vous recevez votre programme de course à pied et de renfo. Retour au podcast, toutes les indications seront en description. Merci.
Et par exemple, pour nos auditeurs qui prépareraient, je sais pas, on va dire, on part sur un 100 km peut-être avec 5 000 de dénivelé, prenons un exemple, est-ce que ça pourrait avoir du sens de se dire, ben, un mois avant, j'essaye de faire un week-end choc, de faire 3 fois 30 km avec peut-être 2 000, en fait de cumuler à peu près l'objectif de course sur 2 ou 3 jours. Est-ce que ça peut être un bon repère d'avoir ça comme objectif dans la préparation pour se dire voilà, je suis prêt, même si bien sûr on sait que dans l'ultra tout peut arriver, mais c'est un bon repère pour vous?
Ouais, ça peut être une bonne idée. Alors si on est un coureur plutôt de milieu de peloton, effectivement, ça peut être un week-end choc un peu sympa. Si on est un coureur un petit peu plus aguerri, moi je serais d'avis de le faire plutôt en 2 jours. Alors pas forcément 100 km exactement, mais en tout cas peut-être 2 fois 40, peut-être par exemple, pour être un petit peu plus spécifique, parce que 3 fois 30, bon, ça fait c'est déjà pas mal, hein, ça dépend pour qui, etc. Mais voilà, si on a un bon niveau, je pense qu'on peut faire un peu plus, voire dépasser en faisant peut-être 3 fois 40. Ça c'est
Okay.
possible, ouais.
Et
Mais
donc voilà, à peu près.
c'est une bonne en première intention, c'est une bonne approche.
Et à peu près sur ce réflexe de 3 semaines avant, un mois avant, et on coupe au moins 2 3 jours après le week-end choc.
3 semaines, c'est le minimum, ça c'est sûr, si c'est un vrai week-end choc, hein, on vient de parler. 4 semaines, ça laisse une marge de sécurité un petit peu plus élevée. Donc effectivement, on peut faire par exemple 4 semaines en coupant, pas toute la semaine, mais une bonne partie de la semaine, en reprenant un peu sur du vélo, etc. Dès qu'on se sent un peu mieux, bon, on peut refaire un petit peu d'intensité en concentrique, par exemple, pour pas remettre tout de suite des dommages musculaires. Si on a fait 4 semaines avant, éventuellement 15 jours avant, on peut refaire une sortie relativement longue presque plus pour se rassurer psychologiquement qu'autre chose. Il ne s'agit pas de refaire un autre week-end choc, mais une sortie en montagne. On va peut-être appuyer un petit peu plus en montée, un peu moins en descente, par exemple, ce genre de choses. On peut garder l'intensité, on peut refaire des séances d'intensité, pareil, toujours en privilégiant plutôt le plat et la montée et peut-être un peu moins la descente. Et puis une semaine avant, par contre, on va couper vraiment en faisant des séances. On peut sortir tous les jours ou presque, mais sur des séances très courtes. Hein, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'affûtage, c'est encore un autre.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Et juste pour revenir à la descente, donc on l'a compris, c'est un facteur essentiel. Et c'est vrai que les trailers et les ultra-trailers un petit peu débutants sous-estiment l'impact de la descente. J'aurais eu une question sur la différence entre faire. Donc on a dit que l'excentrique, au début, ça dépendait pas mal aussi de l'intensité de la descente. Mais quelle différence y aurait entre faire par exemple, 500 de dénivelé où j'y vais, j'y vais fort, je mets de l'intensité, je me suis préparé bien sûr avant, j'étais progressif, versus faire 1500 à une vitesse vraiment lente peut-être dans mon premier jour de week-end choc. Quel impact, lequel est le mieux par rapport à peut-être les deux, hein, il faut faire. Je sais pas comment se placer et que conseiller pour les auditeurs.
C'est pas forcément incompatible, effectivement, de faire une ou deux séances où on va faire 500 négatifs un peu vite. Alors, par contre, derrière, ça va aussi laisser des traces. Donc, il faut aussi se laisser le temps de récupérer. C'est ça le problème, c'est que si on fait ça en disant, bon, finalement, j'ai fait qu'une heure, une séance d'une heure, ben, je peux enchaîner derrière. C'est un tout petit peu risqué. Alors que si j'ai fait 2 jours, de week-end choc. J'ai accumulé de la descente. J'ai aussi accumulé de la fatigue générale et donc j'ai aussi ce besoin de récupérer. Mais si on est assez malin pour dire je vais aussi faire effectivement travailler spécifiquement l'excentrique à haute intensité, ça induit des dommages et je vais récupérer. C'est pas forcément incompatible avec un programme. Mais attention de ne pas le mettre du coup trop près d'un week-end choc aussi pour pouvoir remettre une dose d'excentrique. Et donc j'ai pas dit du tout que c'était pas possible de faire ce type de séance. Je dis juste que quand on fait des week-end chocs, on va travailler quand même malgré tout l'excentrique et en mode spécifique. Donc quand même ce principe de spécificité il prévaut quoi qu'on en dise. J'imagine pas qu'il y ait beaucoup de coachs qui soient contre ce principe-là. Et du coup, comme je l'ai dit, le week-end choc n'a pas comme intérêt uniquement la préparation à l'excentrique. Il y a tout un tas de raisons de faire des week-end chocs. Donc, l'excentrique en fait partie, mais ce n'est pas la seule raison.
Et au niveau des niveaux de force qu'on engendre justement sur ces séances à haute intensité en descente versus de l'excentrique en salle de sport, est-ce qu'il y a des études qui ont montré la différence entre les deux? Est-ce qu'on est vraiment beaucoup plus élevé en descente à haute intensité versus des hauts niveaux de charge à la salle de sport? Est-ce qu'on arrive à avoir un repère par rapport à ça?
Dans tous les cas, on est quand même très différent quand on fait du vrai excentrique en salle de sport versus quand on descend même à haute intensité. C'est sûr que les charges globales sont plus faibles quand on court que quand on est en salle de musculation. Mais avec des pics de force qui peuvent être aussi peut-être plus importants parce que la vitesse de développement de la force, quand on va si on est en descente très raide et qu'on essaye d'aller vite, ben il va falloir freiner avec des montées en force qui sont élevées. Maintenant, des mesures, on va aller comparer l'effet de la vitesse sur le pic de force excentrique verticale, antéro-postérieure ou la composante des deux. Comme ça, j'ai pas de papier, ça doit exister, hein, mais j'ai pas de papier. Il y a très peu finalement de. Ben, nous, on a fait des choses là-dessus. On a regardé l'effet de la vitesse sur la biomécanique. On a un papier là, c'est un papier de Vernio, là, un collègue quand j'étais au Canada où on avait un tapis instrumentaire. Alors c'est un tapis roulant, mais bon, je pense que c'est quand même une approche assez raisonnable de la course à pied, voire très similaire. En tout cas, on avait fait l'effet vitesse effectivement sur les pics, mais on n'était pas sur des vitesses, malgré tout, les vitesses élevées restaient loin des vitesses max que l'on peut avoir en descente. Faire des vitesses max telles que l'on peut avoir sur le terrain, sur tapis roulant, c'est-à-dire la seule façon de vraiment mesurer les forces au sol, ouais, il faut être un petit peu joueur quand même, parce que ça va quand même vite, hein. Si on descend à 20 km heure avec une pente de 15% sur un tapis roulant, c'est assez sport quand même. Moi, j'ai vu sur une de nos manips, là, il y avait un coureur là que je salue, qui s'appelle Valentin Lacroix, qui est un bon coureur, qui s'était un peu donné. Il avait fait un trail simulé de 40 km effort. Et donc, vu son niveau, pour lui, c'est vrai qu'il pouvait envoyer un petit peu en descente. Ouais, c'était quand même. Je pense qu'il n'était pas, malgré tout, il faisait de son mieux, mais je pense qu'il était encore plus lent que ce qu'il aurait fait s'il avait été sur le terrain. Mais quand même, ça allait vite déjà. Donc, en l'occurrence, on n'avait pas mesuré les forces. Là, il était sur un tapis classique. Mais donc, je pense pas qu'il y a autant de. Bon, c'est des choses peut-être qu'on pourrait faire, mais il faut être un peu joueur, quoi. Enfin, on va essayer de pas. Bon, après, on a des harnais de sécurité, des choses comme ça. Donc, on risquerait pas de tuer les gens. Mais bon, s'ils mettent le pied à côté du tapis, ils peuvent se faire un peu mal quand même. Mais peut-être que ça existe, hein, d'ailleurs, des vitesses max de course comme ça en descente sur tapis roulant instrumenté. Comme ça, j'ai pas d'études qui me viennent en tête, mais
Et du coup, sur des niveaux de force qui seraient inférieurs à ce qu'on arriverait quand même à générer en salle de sport?
Eh ben, du coup, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'intégrale de la force? Est-ce qu'on parle du pic de force? Et là, comme ça, sans avoir les données sous les yeux, je serais pas capable de dire si c'est le cas. En tous les cas, si on veut travailler la résistance à l'excentrique en course à pied en descente, il n'y a pas d'autre choix, à mon avis, que de. Alors, ça ne veut pas dire que l'excentrique en salle n'a pas d'intérêt, mais on ne peut pas se limiter à ça. Il faut, à un moment donné, faire des séances soit si on est de l'ultra, des week-end chocs, soit des séances spécifiques descente, mais à intensité sous-maximale, soit effectivement des descentes un petit peu plus au maxi, qui permettent aussi de travailler la technique. Et ça, c'est un autre aspect que l'on n'a pas encore évoqué. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire, la vitesse en descente, en aigu, c'est-à-dire le pic de vitesse, mais aussi sur la durée, par exemple en ultra, ne dépend pas, évidemment, l'aspect résistance musculaire est clé, mais ça dépend également de la technique de course. Et il y a des gens qui sont des très fins techniciens, des gens qui savent très bien où placer les pieds, comment être très fluide en descente, et le meilleur exemple pour moi, c'est Kylian Jornet.
Et comment être un petit peu économe en descente en étant bien sûr relâché? Mais si on avait des conseils pour nos auditeurs sur la pose du pied, est-ce qu'il y a un consensus ou est-ce que ça dépend vraiment de chacun?
Bah ça, c'est un petit peu l'expérience de la montagne. C'est-à-dire que quelqu'un qui se mettrait à faire, ça, c'est une des limites de quelqu'un qui se mettrait à faire du trail à 30 ans, qui aurait été un coureur sur route, par exemple, très bon coureur sur route, et qui veut se mettre au trail. Ça veut pas dire qu'il a aucune chance de faire des bonnes performances en trail, mais sur des trails techniques avec des descentes raides, etc., je pense qu'il aurait, il ou elle aurait de la peine, et je dis elle parce que les femmes sont, alors pas toutes, mais globalement, il me semble que les femmes sont souvent un peu moins à l'aise en descente. Elles peuvent être super fortes en montée, mais un petit peu moins à l'aise en descente. Et c'est pas forcément qu'une histoire de force musculaire, je pense. Est-ce que c'est une histoire d'engagement, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas scientifique ce que je dis là, mais c'est le sentiment que j'ai, même si encore une fois, il y a des femmes qui vont très vite en descente. Mais en tout cas, ça peut être une limite effectivement de quelqu'un qui serait pas à l'aise en descente parce qu'il n'a jamais fait de montagne en étant jeune, qui n'a jamais fait de ski, de peut-être de vélo, de tous ces sports qui vont demander un petit peu de la lecture de terrain, d'équilibre, et donc pas que de la force, quoi. C'est un peu toutes ces notions de pilotage, si je puis dire. Même en course à pied, on pourrait presque parler de pilotage.
Et purement, au terme vraiment de la pose de l'appui, est-ce qu'il y a un type d'appui qui permettrait d'économiser un petit peu mieux, notamment ses quadris, pour protéger cette force excentrique en descente? Est-ce qu'il y a une façon, peut-être, en étant un peu plus sur l'avant-pied, pour stimuler un peu plus le mollet? Est-ce qu'il y a une biomécanique qui serait recommandée?
Il y a très peu d'études là-dessus. J'en connais une puisque j'y ai participé. C'est pas moi qui ai fait l'étude. C'est Marlène Giandolini, qui est une chercheuse qui travaille maintenant pour Salomon. Et pendant sa thèse, elle avait fait, on avait fait, mais c'est surtout elle avec l'équipe à l'époque, elle était à Chambéry, une descente de la dent du chat à bloc. Et on avait regardé, effectivement, elle avait mesuré grâce à une technique qui consiste à mettre des accéléromètres à l'avant du pied sur les métas et puis sur le talon, on peut arriver justement à avoir une idée de la pose de pied. Donc, mais il y a très peu d'études hein, là-dessus. Moi, je connais celle-là, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres. Et ce qu'elle avait montré, Marlène, c'est qu'il y avait une corrélation effectivement entre la variabilité de la pose de pied et les dommages musculaires après la course ou un jour après la course ou 2 jours, je sais plus. Et donc la question, c'était de se dire, en gros, la conclusion, c'était de se dire, les gens qui sont le plus variables arrivent à minimiser les dommages musculaires. Donc ça, c'était super intéressant. Et donc là, il y a 2 options. Soit effectivement, le fait de varier permet de tourner, si je puis dire, entre les différents groupes musculaires et donc quelque part d'économiser, de pas travailler toujours le même muscle et donc de s'économiser sur le plan musculaire, de pas toujours surcharger, par exemple, le quadri versus le mollet, etc. Soit l'aspect technique. C'est-à-dire les gens qui arrivent à s'économiser musculairement, c'est des gens justement qui sont plus techniques que les autres et qui donc s'adaptent au terrain, notamment en jouant sur la fréquence de pas, des petits pas, des grands pas, des poses de pied avant-pied, un peu plus talon quand il faut freiner, etc. Et je pense que c'est plutôt la deuxième solution. C'est-à-dire que c'est plutôt le côté technique, cette variabilité de la foulée. C'est une interprétation évidemment, mais de mon point de vue, représentait plus l'aisance technique du coureur que vraiment une volonté de changer entre avant-pied et talon et pose-talon. Et d'ailleurs, on avait fait une étude justement pour le vérifier, mais je pense qu'on n'était pas dans les bonnes conditions parce qu'on n'avait pas assez habitué les coureurs à venir sur tapis roulant, etc. Mais on avait fait une étude où on avait demandé aux coureurs de faire une condition normale, ils couraient normalement, et une condition où toutes les 30 secondes, ils switchaient entre pose avant-pied et pose talon. Donc, regardez si en faisant ça, on arrivait à minimiser la fatigue, et on n'avait pas montré d'effet. Mais je pense qu'on n'était pas dans les bonnes conditions, donc peut-être ça mériterait de refaire cette étude. Mais je reste quand même sur mon idée de dire la variabilité de la pose de pied est plus un témoin de l'aisance technique qu'autre chose.
Et d'ailleurs, vous en parlez, mais dans votre livre aussi, vous disiez, en montée, ça peut être aussi intéressant de varier le type de montée en travaillant plus une extension au niveau du quadri ou plus aller chercher un peu plus sur le fessier. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi aux auditeurs? Est-ce que j'ai bien compris déjà ou pas?
Ouais, ça c'était un petit peu des tips de coureurs, hein, plus que de. Y a pas d'études scientifiques qui montrent ça, mais dans
Pourtant,
l'article,
ça paraît du bon sens.
ça paraît du bon sens. C'est pour ça que je l'ai mis, sans doute. On peut pas non plus se contenter toujours de mettre des choses qui sont étayées scientifiquement. C'est quand même bien qu'il y ait un peu de science, à mon avis, mais évidemment, si on fait que ça, bah, y a beaucoup de limites quand même dans la science, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est important aussi d'avoir l'avis de personnes du terrain, que ce soit des coachs ou des athlètes eux-mêmes. Et là, en l'occurrence, ça venait, bon, ça c'est un petit peu vieux déjà, hein, à l'époque où je courais, c'est-à-dire pas hier, parmi les meilleurs coureurs à l'époque, hein, des gens comme, en l'occurrence, là en particulier, c'était des gens comme Vincent Delebarre, qui a gagné l'UTMB il y a plus de 20 ans, qui m'expliquait ça. Donc, j'avais dû reporter ça, c'est plus une anecdote qu'autre chose, mais effectivement, c'est un peu du bon sens. Donc, varier un petit peu, varier les techniques, de la même façon que varier entre marche et course peut être aussi une bonne chose. Quelqu'un qui serait capable sur des distances un peu plus courtes de courir tout le temps, je pense aurait malgré tout intérêt quand même à couper sa course par de la marche régulièrement. Et de la même façon sur les distances, c'est pas tout à fait lié mais un petit peu quand même, sur les distances courtes, je pense que les athlètes, si un jour je devais entraîner un athlète, y compris sur du court, et que les bâtons étaient autorisés, je lui conseillerais il ou elle conseillerait de prendre les bâtons sur des distances plus courtes. Maintenant, les bâtons sont tellement légers que finalement, ça pèse pas grand-chose. On peut les ranger facilement, etc. Et par contre, dans les montées, surtout les montées raides, mais même peut-être un moyen pas seulement d'économiser ses jambes comme en ultra, parce que c'est vrai que c'est là que c'est important plus que sur le court, mais même de gagner de la puissance. Et on le voit sur le meilleur exemple, c'est le kilomètre vertical. Kilomètre vertical, tous les meilleurs, ils ont les bâtons. Et donc, c'est bien que ça sert à quelque chose. Et pourtant, kilomètre vertical et les bâtons, alors c'est vrai que c'est hyper raide, donc c'est encore plus intéressant, c'est certain. Mais même sur des pentes plus faibles, je suis assez persuadé que utiliser bâtons pourrait être une bonne chose. Et il y a quelques athlètes qui le font. Il y en a un qui est connu, là, un espagnol, son nom m'échappe, qui utilise vraiment les bâtons sur des formats courts, mais il y en a pas tant que ça. Alors parfois c'est interdit, mais souvent c'est autorisé à ma connaissance, et très peu le font. Bon, voilà, quand on a bien sûr, si c'est des formats roulants type Tirzina, etc., ça paraît plus compliqué, mais sur des formats plus, et encore, ça pourrait discuter, en tout cas sur des formats plus raides, je pense que les bâtons devraient être utilisés plus souvent, même sur le court, en tout cas sur le long, il n'y a pas débat.
Et juste avant de finir par une dernière partie sur un petit peu les risques peut-être qu'il peut y avoir sur l'ultra, combien en faire par an, etc. J'avais juste une petite question sur le lien qu'il pourrait y avoir entre la souplesse et l'excentrique. Est-ce que être plus souple, ça améliorerait justement la capacité à subir l'excentrique, ou est-ce qu'il y a aucun lien entre les deux?
Les évidences scientifiques sont assez faibles de ce point de vue sur cette question, mais le peu qui existe va quand même un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que la souplesse, c'est typiquement un petit peu comme l'histoire des bâtons. Si je suis très souple, c'est pas bon pour mon coût énergétique. Par contre, effectivement, peut-être que c'est un moyen de limiter, moyen mineur, mais un moyen quand même de limiter les dommages liés à l'excentrique. Comme si c'est un moyen de lisser un petit peu les forces. Mais il y a très peu d'études et encore moins d'études en chronique qui montre ça, à ma connaissance, encore une fois, hein, je suis passé à côté de certaines études. Mais globalement, quand même, si on veut être très économique, typiquement, si on a un coureur sur de 10 km, il vaut mieux ne pas être trop souple, parce que ça va nuire à son coût énergétique. La raideur est importante et la souplesse, dans une certaine mesure aussi, bien sûr, même si la raideur lors de l'appui, c'est pas la souplesse seulement, mais quand même, il y a aussi des études qui montrent, plusieurs études, hein, qui montrent des corrélations inverses entre le coût énergétique et la souplesse. C'est-à-dire on est moins économe quand on est trop souple. Et par contre, sur l'excentrique, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on va peut-être perdre un peu en coût énergétique. Par contre, c'est un moyen, effectivement, potentiellement en tout cas, de limiter les dommages musculaires. Donc, pour des coureurs d'ultra, être un petit peu plus souple, je pense que c'est une bonne idée. Et puis, de toute façon, c'est une bonne idée pour prévenir un petit peu les dommages musculaires, les blessures. Donc, ouais, le coureur d'ultra n'a pas intérêt à faire l'économie de séances de yoga, de stretching, etc.
On accentue un petit peu chaîne antérieure ou même chaîne post, on y va partout.
Un peu tout. Chaîne post, évidemment, encore plus, ça peut être vrai pour tout le monde, hein, mais même sur les chaînes antérieures, les extenseurs des membres inférieurs, on peut se permettre d'être un peu plus souple, alors qu'on peut pas se le permettre si on fait de la course sur route.
Ok. Et juste au niveau de la, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la foulée pendant la course, on voit notamment Ludovic Pommeré qui a une grosse attaque talon. On voit dans le livre qu'il faudrait peut-être avoir surtout sur l'ultra, une foulée plutôt rasante, plutôt talon. Est-ce que vous le recommandez encore ou pas spécialement? Là, on parle pour des longues distances, pour justement dans cette optique de préservation du capital musculaire.
Disons que ceux qui veulent être attaque avant-pied ou pointe de pied. Je pense pas que ça existe, un mid-foot ou comment on dit, plante de pied en français, ou je pense pas qu'il y ait vraiment des avant-pieds en ultra, mis à part peut-être Kylian sur quelques kilomètres, mais pour faire même sur ces pardon, même si c'est plante de pied, il faut quand même mobiliser les fléchisseurs plantaires. Il faut mobiliser les mollets pour pouvoir et ces mollets, ils se fatiguent. Et donc arriver plus relâché, plutôt en attaquant sur le talon avec des foulées courtes, ce qui fait que oui, effectivement, il va y avoir peut-être un impact un peu plus important. Bon, maintenant il y a des chaussures quand même qui permettent d'amortir un petit peu. Mais en tout cas, on n'a pas à faire cet effort de pré-contracter, de pré-activer ces mollets. Et au final, je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose, même si, encore une fois, ben là, on parle de Ludovic Pommeret qui est un coureur élite, mais il peut y avoir des coureurs qui sont des formats un peu plus rapides, dans le sens intrinsèquement rapide. Au final, Ludovic, il est rapide sur la durée de la course, mais en étant très endurant. Et il n'est pas très rapide comme coureur, même si c'est à relativiser, parce que même sur des trails courts, il arrive à faire de belles performances. Mais en tout cas, il y a des coureurs plus rapides que lui, hein, c'est normal à son âge, sur des formats courts. Et ces gens-là peuvent avoir peut-être des foulées un petit peu plus dynamiques, avec des attaques un peu plus plantes de pied. Mais je pense que c'est assez limite. Et il y a, je pense, assez peu de coureurs qui viennent peut-être est une exception. Jim Wamsley en est une aussi, potentiellement. Il y a assez peu de coureurs qui ont des foulées comme ça et qui sont capables de performer sur le très long.
Et juste
D'une
pour
façon
finir cette
générale,
part.
une règle générale qui souffre
Oui,
de
bien sûr.
souffre d'exception.
Bien sûr. Et juste pour finir, est-ce qu'on sait les muscles les plus impactés justement par l'ultra, par ces longues distances? C'est quoi, mollet, quadri? C'est vraiment les deux plus gros? Ou est-ce qu'il y a aussi ischio,
Alors,
pectoral?
il y a très peu d'études qui ont mesuré la force sur les ischios après un ultra. Je ne sais même pas si j'en connais une. Je réfléchis, mais doit bien exister. Mais comme ça, il n'y a rien qui me vient. C'est vrai qu'on fait systématiquement, et nous, on en a fait quand même pas mal des mesures. On n'est pas les seuls, mais on a fait quand même pas mal des mesures. Et on amenait, effectivement, c'est toujours les mêmes muscles qu'on mesure, hein, donc extenseur du genou, donc quadri et mollet.
Ok,
Et
super. Et je...
la fatigue est à peu près sur la fatigabilité définie comme la perte de force maximale à l'issue de la course est à peu près équivalente entre les mollets et les quadriceps.
Ok,
C'est-à-dire qu'on
super.
perd en moyenne, il y a de la variabilité entre les gens, bien sûr,
Autant.
mais en moyenne, après un UTMB, par exemple, 35 à 40% en moyenne.
C'est pas mal. Et juste pour finir cette partie et aider un petit peu nos auditeurs à construire leur entraînement. Et alerter un petit peu, pas les inquiéter, mais sur justement des points. Combien on peut faire d'ultra par an? Est-ce qu'il y a un consensus par rapport à ça? On va pas se comparer notamment à Ludovic Pommeret qui cette année en a fait trois assez rapidement et consécutivement. Mais une recommandation pour le grand public sur la santé. Et justement derrière, ça viendra sur ma deuxième question. Quel risque un petit peu on pourrait avoir derrière un ultra?
Alors j'adore Ludovic, mais c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il a eue de sa vie. De la même façon que Courtney, quand elle a fait son triplé magique là il y a 2 ans d'ailleurs, pas forcément la meilleure idée qu'elle a eue de sa vie. Bon, maintenant elle a gagné les trois et ça va rester dans l'histoire avec un petit H, mais elle peut être fière de ça. Mais bon, quand même globalement, 3 courses, surtout à ce niveau-là, c'est too much. Surtout en plus, c'était même pas espacé dans la saison, c'était rapproché à un mois ou 6 semaines d'intervalle, donc c'est vrai que c'était quand même pas très raisonnable. Bon, ça, elle a réussi à gagner les trois, tant mieux pour elle. Ludo a pas gagné, mais a fait quand même des bonnes performances sur chaque. Non, l'idée c'est plutôt deux par an. Deux par an, c'est en laissant le temps de récupérer après le premier, en faisant une période d'entraînement, etc. Donc idéalement, pas enchaîner UTMB La Réunion. Bon, bien sûr qu'il y a tout un tas d'exemples de coureurs qui ont réussi à faire les deux et qui ont même réussi à gagner les deux. Mais bon, il vaut mieux éviter quand on peut. Donc plutôt, truc un peu classique, c'est on fait une course au mois de juin, type la Western, en ultra, hein, les courses un peu célèbres, ou une course en France évidemment, mais... Et puis après le Grand Raid de la Réunion ou alors en tout début de saison puis l'UTMB ou voilà ça éventuellement ça peut se goupiller mais bon en tout cas des gens comme François Denne ont fait pendant toute leur carrière 2 courses par an et ont réussi à durer comme ça pendant des années et des années. Alors évidemment c'est pas une approche scientifique mais je pense que c'est une approche qui est très raisonnable. Si on peut en faire qu'un c'est encore mieux à mon avis, mais on peut aller jusqu'à 2 et surtout ce qui est important au-delà du nombre d'ultras c'est de passer du temps sans courir et même sans faire de sport chaque année. Moi, je crois beaucoup à ça. Pour une fois, pas forcément d'études. Hein. C'est compliqué d'étudier sur des suivis comme ça aussi longs. Il faudra prendre deux cohortes de coureurs hein, qui, pendant des années, qui coupent un mois par an versus ou 2 mois par an versus une cohorte qui coupe pas. Donc c'est juste impossible à faire d'un point de vue études scientifiques. Par contre, quand on voilà, même si prendre des exemples avec des François Denne, des Kilian Jornet, etc. C'est à la fois intéressant de les citer et à la fois évidemment très limité dans le sens où bah, s'ils sont à ce niveau-là, c'est qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Donc d'interpréter ou d'inférer des résultats qui s'appliqueraient à tout le monde à partir de choses que l'on voit sur Kilian, évidemment c'est toujours un petit peu risqué. Mais n'empêche que Kilian, ça fait des années qui dure à haut niveau. Et pendant longtemps et encore maintenant, il court pas du tout pendant tout l'hiver. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui doit quand même le reposer au moins d'un point de vue musculaire
Tient quand même un
et
petit peu,
aussi articulaire, bien sûr.
tient quand même un tout petit volume pour garder un peu d'adaptation pour la course à pied, ou vraiment la recommandation c'est zéro footing, comme notamment juste faire, je sais pas, 2 fois 3 km ou 2 fois 3 km, vraiment juste pour entretenir, garder la course, ou même pour vous ça sert à rien, il n'y a pas d'intérêt?
Non, pour moi, ça sert à rien.
Non. Ok, juste
Par
on
contre,
croise.
quand on reprend, il ne faut pas reprendre tout de suite avec un bas dans la semaine, c'est sûr.
Ouais, bien sûr. Et cette coupure, vous la recommandez?
En fin de saison, on peut commencer effectivement par 2 fois 3 km. Pas d'accord.
Ok. Et donc on coupe et on peut croiser. Vous conseillez carrément d'arrêter au moins un mois sans sport?
Ah ouais.
Ok.
Bah ouais, c'est l'occasion de faire un peu autre chose, il n'y a pas plus sport dans la vie.
Ouais, bien sûr. Et justement, comment on réagit après un ultra? Juste pour dernière question pour nos auditeurs. J'ai fait mon ultra ou j'ai fait mon objectif de l'année, un 80, 60 km, peu importe. Pour moi, c'était un gros objectif. Qu'est-ce que je fais derrière? Je prends 2 semaines, 3 semaines de repos, ou si à ce moment-là, je prends mon mois de off, qu'est-ce que vous conseillez justement pour prendre soin de sa santé après ce type de course qui a quand même traumatisé l'organisme?
Je pense qu'on peut se dire, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des entraîneurs, je crois que en l'occurrence c'est Patrick Bringer, lui il a une règle, il dit un jour de repos total par 10 km parcouru en compétition. Donc si on a fait un UTMB, c'est 15 jours sans rien faire. Si on a fait un 80 km, c'est une bonne semaine. Après, on peut, même si on a fait un très long, on peut reprendre au bout de 8-10 jours. Mais pareil, on va reprendre en allant peut-être nager, faire du vélo très très souple, des choses comme ça. Et on n'est pas obligé de rattaquer tout de suite par la course à pied. Et puis après, on peut aussi arrêter après son deuxième, même son premier ultra, si on n'en fait qu'un par un, et puis couper, faire autre chose pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Après, il ne s'agit pas de dire je passe d'une vie de moine à je bois de l'alcool tous les jours, je vais faire la fête et je prends 15 kilos. C'est pas très bon non plus d'avoir de trop grosses variations, ni de poids, ni de. Mais c'est un moment aussi de se lâcher, mais même que dans un but de performance. Je parle même pas d'équilibre personnel, mais dans un but de performance, de pas toujours penser qu'à l'ultra et d'en profiter pour aller voir un peu ses copains, sa famille, etc. Bon, il y a quand même des gens qui sont un peu moines hein, dans leur préparation de course. Si c'est pas le cas, évidemment, ça s'applique pas ce que je dis là, mais il y a quand même un certain nombre de coureurs qui sont très très sérieux, très disciplinés. Des fois, tu as envie de leur dire, pète un coup quand même. Hein, c'est bien de se préparer. Je trouve ça moi génial,
Bien
évidemment.
sûr.
Pas moi qui veux dire le contraire. Je trouve qu'il y a vraiment une vertu à se discipliner, à se préparer, d'avoir un objectif, etc. Mais c'est pas forcément. Déjà, un, il faut pas se prendre au sérieux. Ça, c'est le plus important. Et puis deux, il faut aussi décompresser un petit peu. Donc, de couper, ça n'a pas seulement une vertu de d'économiser son capital osteo-articulaire. C'est aussi économiser un peu son mental.
C'est super beau. Mais merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir transmis autant. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et on va suivre donc ce projet. Encore un grand merci, Guillaume.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir. Attends.
Un grand merci d'avoir écouté ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre vos 5 étoiles et vous retrouverez donc le lien du livre en description. Un grand merci de soutenir notre podcast et ce projet, et à très vite pour un nouvel épisode.